Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie, en direct ou en podcast sur franceinter.fr. Bonjour Julia Foyce.
Mais bonjour Ali Rebéi.
La Scheherazade de la vie numérique.
Ah, j'aime bien quand vous le refaites
bah oui,
encore.
Que
vous
l'on
ferez tous les mercredis.
Bah oui, tous les mercredis. Merci. Que l'on retrouve tous les mercredis, dont il était une fois dans le web. Vous nous racontez quoi ce matin?
Bon, on fait le bilan de l'année 2016 sur Twitter. Et comment vous dire, Ali, vivement 2017.
À tout à l'heure, Julia. Et ce matin, avec le magazine Society, zoom sur le team building. En bon français, le renforcement de l'esprit d'équipe en entreprise, une technique de management en vogue dans les années 80 et 90 et qui a de nouveau le vent en poupe avec un objectif, construire un esprit d'équipe, resserrer les liens entre collaborateurs en participant à une foultitude d'activités, cours de cuisine, paintball, acrobranche, match de rugby, cluedo géant. Nos invités nous diront quels sont les bienfaits et les risques de ce mode de management et quels sont les moyens réellement efficaces pour souder durablement une équipe. Nous attendons vos questions et témoignages. Donnez-nous vos idées pour souder une équipe au travail. 01 45 24 7000. Grand Bien Vous Fasse à radiofrance.com et sur notre page Facebook.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebéi.
Ok, alors messieurs, je vous rappelle que c'est un jeu. On n'est pas là pour se faire mal ou pour forcer à reculer son adversaire. Rien ne vous empêche de reculer, un peu de fair play s'il vous plaît. Ok monsieur, on y va tranquille. C'est pas, le but c'est quand même pas de se faire mal, d'accord? Je veux dire, vous prenez une bille, tant pis, vous reculez et vous y retournez. Ça marche? Allez, en position messieurs, on recule!
Moi c'est Dominique, je suis le responsable pièce de rechange de la succursale.
Comment vous appelleriez cette sortie?
Un challenge paintball. Sortie paintball récompensant la bonne activité du service au global. On a fait sortie type karting. Le prochain qu'on devrait faire, si on réussit, ça sera une découverte quad. Donc, bowling, c'est plus du chacun pour soi. Quoi. Donc, un peu calme surtout.
Un extrait des Pieds sur Terre sur France Culture en 2007. Bonjour Marc Bauger, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes arbitre des élégances dans Quotidien de Yann Barthès sur TMC et surtout rédacteur en chef du magazine Society. Vous proposez en kiosque le hors-série Une année en France. On reviendra dans un instant sur le reportage que vous avez consacré au team building, le sujet qui nous occupe donc ce matin. Dans ce hors-série de Society, c'est un numéro très éclectique. On retrouve aussi bien le patron vorace Xavier Niel, deux ex-habitants de la jungle de Calais, la tête pensante de Nuit Debout, Frédéric Lordon, des livreurs à domicile surexploités, des militaires frappés du syndrome de stress post-traumatique, ou encore la formidable Virginie Efira.
Il y a beaucoup de pages, 128 pour être précis, c'est un numéro qui est bien rempli parce qu'il ressemble à l'année qui vient de s'écouler.
Très contrasté.
Très contrasté, il y a des articles assez réjouissants sur comment le monde avance et d'autres un peu moins. Mais enfin, c'est comme ça. C'était comme ça en 2016.
Alors j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur le team building, ce renforcement d'équipe en entreprise et qui fait l'objet d'un reportage dans vos colonnes. J'ai donc demandé à un grand spécialiste du monde de l'entreprise de nous éclairer sur ce phénomène qui revient en force en entreprise. Bonjour Lionel Bélanger.
Bonjour Ali.
Vous êtes formateur, enseignant à HEC Executive Education et vous avez coécrit « Comment manager demain » chez ESF Éditeur. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le team building? Littéralement, construire une équipe, il n'y a hélas pas d'équivalent en français.
Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de mots pour traduire véritablement team building, ça renvoie plutôt à une notion pour l'essentiel, qu'on pourrait résumer à vivre une expérience ensemble, de manière à créer des liens.
En entreprise.
En entreprise, oui, créer des liens et espérer que ces liens qui ont été créés vont donner une dimension plus cohésive. Partant du principe dans l'entreprise en matière de management, que plus on est soudé, plus il y a de la cohésion, plus l'équipe est efficace. C'est un peu l'analogie sportive en quelque sorte. Plus les joueurs ont entre eux un lien très fort, en général, ça donne quelques garanties supplémentaires pour la performance.
Et je me souviens que le team building était très en vogue dans les années 80-90.
Oui, effectivement, et au départ, et beaucoup de formateurs, nous avons connu cette époque, 70, 80, 90, du team building, qui était pour l'essentiel dirigé vers les commerciaux. Parce que les commerciaux sont traditionnellement dans un univers de compétition, et pour eux, l'analogie, la transposition est plus facile. Et beaucoup de managers commerciaux estimaient que d'envoyer leurs vendeurs dans des séminaires où ils vont se mesurer, en faisant du karting, en faisant diverses activités sportives. Ils vont entre eux créer des liens plus forts et on peut espérer que ça va les booster en quelque sorte pour la vie de l'entreprise.
Et je me souviens de tous ces reportages télévisés qui mettaient en scène des cadres en treillis, en stage commando façon Rambo. Il me semble que cette technique était très influencée par l'idéologie libérale des années 80-90, Reaganienne et Thatcherienne en diable.
Oui, on peut aller jusque-là, effectivement. En tout cas, ça renvoie à la grande époque du leadership de la performance, une dimension de compétition dans un univers violemment concurrentiel où le chef hiérarchique a laissé la place au leader. Et le leader, l'analogie est plus facile à faire avec le coach d'une équipe d'un sport collectif, voire effectivement la transposition dans l'univers militaire, certains s'y sont risqués, et ça a été le must, ça a été la grande époque du saut à l'élastique.
Vous avez pratiqué, vous ?
Alors j'ai observé, j'ai pas fait, j'ai observé, il y a eu l'acrobranche aussi, mais le saut à l'élastique. Avec, et c'est là d'ailleurs que le team building, je crois, a commencé à devenir controversé.
Pourquoi ?
Controversé parce que on s'est posé la question de la transposition. Est-ce que ça révèle quelque chose dans la réalité ? Je vais donner un exemple que j'ai connu. Une douzaine de commerciaux d'une entreprise partent dans un séminaire d'incentive. On appelait ça plutôt incentive d'ailleurs à l'époque, ce team building. Ils partent, ils font de l'acrobranche, ils vont marcher sur des fils, tout ça, etc. Et à un moment donné, comme un cheval devant l'obstacle, il y a un vendeur qui refuse de traverser un endroit assez scabreux où il y avait de la profondeur sur le fil. Petit incident, le moniteur sait pas trop quoi faire, etc. Et l'incite à passer. Et là, il y a un clash vraiment très conflictuel. Et c'est là qu'il y a deux ou trois commerciaux qui disent au moniteur, fais attention, parce que c'est le meilleur vendeur de l'équipe, le mec. Hein. Il fait un carton, il cartonne, il fait des résultats extraordinaires, sauf qu'il a le vertige. Donc là, on s'interroge sur le sens à donner à ça. Quel sens à donner à ça ? Sachant que le chef est là en plus. Hein. Le patron est là, le manager est là. Donc tu vois, le meilleur vendeur de l'équipe qui se retrouve en difficulté parce que bon, le type, il a le vertige, ça arrive. Hein.
Lionel Bélanger, comment expliquer ce besoin grandissant de souder les équipes ? Souder des équipes qui se livrent très souvent une sauvage compétition où les mots altruisme et confiance réciproque ne coulent pas de source ?
Alors, on pourrait, on va peut-être commencer par là, donner une version un peu pessimiste et négative sur le team building. On pourrait dire que c'est en quelque sorte un palliatif au management. C'est-à-dire que si j'arrive pas véritablement, en tant que manager, à créer un climat, à créer des conditions favorables, à stimuler la motivation des gens, on va chercher des palliatifs. 2-3 jours, une fois dans l'année comme ça, où on va se libérer, se lâcher, comme on dit. Et effectivement, là, il y a un souci quand même en matière de management. Il y a un souci parce que s'il y a un retour aujourd'hui de ces pratiques de team building, ça peut être interprété comme, en fait, il y a un problème de management.
Marc Bauger, dans le reportage que vous consacrez au team building dans Society, dans leur série de Society, ce besoin de souder les équipes donne lieu parfois à des pratiques un peu gênantes. Je pense à ces Olympiades sur fond de musique de Fort Boyard et de Pirates des Caraïbes, où des équipes se défient sur l'atelier. Beaucoup mystère, racontez-nous ce que c'est.
Il y a des moments de grande ringardise dans le team building. Et il y a notamment cet épisode dans une grande régie publicitaire d'un grand groupe de médias publics où est mise en scène une fausse prise d'otage finalement. C'est-à-dire que on arrive dans un séminaire de travail classique, des hommes encagoulés arrivent et miment une prise d'otage. Personne n'est au courant. Le chef est exfiltré et regarde l'opération depuis l'extérieur. On imagine un regard critique sur l'attitude des uns et des autres. Et par exemple, ce cas très précis qui est un cas extrême a créé des traumatismes dans l'entreprise. Et les gens ont fini tous, les uns après les autres, par quitter l'entreprise. Donc voilà, il y a des moments de ringardise.
Alors il y a des cas moins extrêmes. Je parlais des beaucoup mystères quand on se la joue aux Olympiades.
Oui, quand on doit fouiller. Voilà. Et en fait, il y a des vers ou des larves, etc. Il y a un côté Koh-Lanta sympathique. Il y a aussi des murder parties.
Des Cluedo géants.
Des Cluedo géants, il faut mener l'enquête. Ouais. C'est un peu moins le vent en poupe ces derniers temps suite à la vague d'attentats. Aujourd'hui, ce qui cartonne dans le team building, ce sont les escape parties.
C'est quoi ?
En fait, on est finalement regroupé dans une salle à une dizaine ou un peu moins de salariés. Et en résolvant des énigmes, on finit en une heure par trouver la façon de sortir de la pièce.
Lionel Bélanger ?
Oui, alors effectivement, le team building emprunte beaucoup à la dimension du jeu. Et dans les jeux qui sont offerts, il y a des jeux de bon goût et il y en a de mauvais goût. Enfin, c'est clair. C'est comme dans la vie en général, comme dans les jeux de société, il y a des gens qui ont horreur de jouer à certains types de jeux, d'autres qui adorent ça. Donc il y a un problème de ce côté-là sur la qualité, l'intelligence d'un jeu, et certains sont vécus comme absurdes. Par exemple, des checklists de questions complètement ringardes, complètement absurdes, dans lesquelles il faut résoudre des énigmes ou des choses comme ça. Enfin, ça empoisonne une soirée, ça.
Et Marc Bouget, quelle initiative prenez-vous dans votre journal pour souder vos équipes ?
Alors, aucune de ce genre. On essaye, en fait, tout bêtement, d'être sympas les uns avec les autres au quotidien, d'associer les gens au processus de prise de décision. Quand on dirige un peu tout ça, mais bon, ça se passe globalement assez bien.
Julia Foy, si j'organise un Cluedo géant avec l'équipe de chroniqueurs et de reporters, vous participez ?
Ah mais jamais de la vie ! C'est-à-dire que moi, là, je suis en train de me liquéfier sur place de tout ce que j'entends. Je n'aime pas l'acrobranche, je n'aime pas la vie de bureau, donc comment vous dire ?
Est-ce que vous aimez le Segway ? Parce qu'il y a le témoignage d'une dame, d'une jeune fille qui a dû arpenter Paris à Segway, vous voyez ce que c'est ?
Segway,
c'est un espèce d'engin à une roue sur lequel on avance comme ça. Donc à dizaines dans Paris, reconnaissable potentiellement par des gens.
Ah non, mais même pas en rêve, c'est-à-dire que pour moi, non seulement là, on a vraiment le pitch, le point de départ d'un bon film d'horreur, hein, pour moi c'est ça le team building, ça finit en général très mal et dans le sang, et puis en plus j'ai un problème avec le divertissement contraint et avec le lien forcé, c'est quelque chose qui me, moi, plus on me fait ça, plus je pars en courant, c'est pas pour rien que la vie de bureau, c'est pas pour moi.
Oui, je crois que c'est ça le problème, vous avez raison, c'est le côté contraignant, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui choisit pour les autres, et en général,
puis on nous dit l'humain, quand rire aussi,
l'humain est ce qu'il est, le chef en général, il fait une projection. C'est-à-dire qu'il a tendance à imposer à son équipe les choses qui lui plaisent.
Bonjour Delphine, vous appelez de l'Isère. Bienvenue.
Oui, bonjour.
Dites-nous tout.
Alors moi j'appelais justement pour dire exactement ce que vous étiez en train de dire avec vos invités, que pour moi en fait le team building c'est vraiment une réponse du management à ce qu'a précisément détruit les techniques modernes de management, c'est-à-dire le lien social qui existait naturellement entre les personnes dans une entreprise. Alors, à savoir qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'aller faire des pauses, de discuter, qu'il y a des cloisons entre les bureaux, que les gens n'ont pas forcément le droit d'avoir ce lien social.
Tout ce qui plaît à Julia Foyce.
J'adore, je vis en plein rêve, là. Continue, je vous en prie.
Et que le team building, justement, ça a été créé pour contrôler le lien social qui existe entre les gens et contrôler ce qui se faisait avant naturellement. Il y avait, on discutait là, lors du repas de Noël avec quelqu'un qui a une soixantaine d'années qui disait, mais avant, on fêtait tous les anniversaires dans mon entreprise. Et qu'aujourd'hui, mais c'est plus possible. Il voit qui va partir de son entreprise parce qu'il n'y a pas du tout de lien et qu'elle en souffre énormément. Et voilà, pour moi, c'est encore une réponse par les patrons face à ce qu'ils ont détruit eux-mêmes.
Merci beaucoup Delphine, et sachez qu'à Grand Bien Vous Fasse, on continue à fêter les anniversaires des collaborateurs. Lionel Bélanger.
Oui, alors...
C'est assez bien vu ce que nous dit Delphine, hein.
Oui, tout à fait. Bon, peut-être faudrait-il se faire un peu l'avocat quand même du sens qu'il peut y avoir dans le team building. Moi, je vois, il y a trois dimensions.
Je suis toute oui.
Il y a trois dimensions dans le team building. Il y a une dimension ludique, c'est-à-dire un retour quelque part de l'adulte vers l'enfant.
C'est un peu régressif, c'est au-delà du ludique.
Oui,
là.
Mais on s'est aperçu aussi que l'adulte lui-même recherchait des situations dans lesquelles parfois il peut se lâcher et retrouver des sensations émotionnelles d'enfance. Donc cette dimension ludique. Il y a une deuxième dimension qui est une dimension expérientielle, c'est-à-dire faire quelque chose ensemble. Faire de la cuisine, construire une chorale, faire du théâtre improvisé, faire une pièce de théâtre. Donc construire par l'expérience ensemble quelque chose. Puis une troisième dimension qui est festive. Donc il y a du ludique, il y a de l'expérientiel et il y a du festif.
Julia Foyce.
Oui, pardon, encore une fois, si on a besoin de week-end paintball pour s'amuser et de week-end paintball avec ses collègues de bureau et avec son manager, pour moi, il y a effectivement un problème. Enfin, je veux dire, j'ai rien contre le paintball en soi, mais si c'est un choix de ma part et si j'y vais avec des gens que j'aime, enfin, en l'occurrence, je ferai jamais de paintball de ma vie, mais vous voyez ce que je veux dire?
Oui, ce qui peut choquer, effectivement, c'est qu'on introduise dans l'univers de l'entreprise qui est justement...
Mais on contraint le jeu, donc on lui fait perdre toute sa dimension ludique.
Oui, qui est un univers assez codifié quand même et hiérarchique, qu'on introduit une activité qui est hors code, justement.
Mais non, parce que les codes, vous les retrouverez de toute façon. Parce qu'un chef restera un chef, même dans une partie de paintball.
Mais Julia Foyce, on peut quand même faire du paintball ensemble.
Eh ben non, on ne fera pas de paintball.
D'accord, tant pis. Allez, nous attendons vos idées pour souder une équipe au travail au 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com et sur notre page Facebook. Une émission préparée par Alexa Rivière et Laure Grand-Besançon avec l'aide de Théo Denmat. Et c'est réalisé par Claire Destacan.
Dissipé. les masses mouvantes des dissipés, les masses mouvantes des tourneaux dans le matin pâle. Aujourd'hui avale, quelqu'un du pays avale, venu jusqu'au puits avale, dans le matin pâle, avale, au nom de la nation, la nation. La nation, la nation.
Bertrand Belin, La Nation.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h23 et ce matin, nous nous intéressons à ces techniques de management censées souder les équipes en entreprise avec Lionel Bélanger qui publie Comment manager demain et avec Marc Bauger, rédacteur en chef du magazine Society qui propose un reportage sur ces techniques dans le hors-série Une année en France, actuellement en kiosque et puis également avec Julia Foyce qui adore ça, le team building.
Et l'acrobranche en particulier.
Lionel Bélanger, dans quel but les managers, les dirigeants d'entreprise cherchent-ils à souder leurs équipes? Quel est le but ultime? Accroître la productivité? Gérer les tensions, remotiver.
Que ça couche. Pardon.
Clairement, c'est une opération de conditionnement. Et on cherche des bénéfices. J'aurais tendance à dire que pour moi, le team building, c'est un peu comme un médicament. Il y a une balance bénéfice et effet indésirable. Il y a des bénéfices incontestablement. Et comme tout médicament, les médecins le savent très bien, ils n'ont pas le même effet sur tous les patients. On peut s'en prendre aux médicaments, ils soignent, mais ils ont aussi des effets indésirables. Et les opérations de team building peuvent avoir des bénéfices, incontestablement, des gens qui se découvrent dans une dimension différente. Ils n'ont pas l'occasion de se rencontrer hors du travail. Donc, dans le travail, si on crée un espace de liberté, et c'est là que le choix de l'activité est important. Le choix de l'activité qu'on va faire. Il y a une énorme différence entre créer une situation, par exemple, de théâtre improvisé et effectivement faire du paintball. Même s'il y a des gens qui peuvent aimer le paintball. Ok. Ok,
ouais, admettons. On va voir la fédération des joueurs de paintball.
Moi, j'ai connu l'époque karting. Enfin, systématiquement, on faisait du karting. Bon, et il y a certains qui envoyaient leur chef dans le décor, quand même, en faisant du karting.
Il y a un auditeur qui nous envoie un mail et qui nous dit « J'ai travaillé il y a 10 ans pour un groupe international et je me souviens d'une opération de team building paintball, qui va plaire à Julia Foyce. Le lieu était moche, en contrebas de la zone commerciale de Vélizy, au bord de la N18. Nous étions équipés de combinaisons malodorantes et je ne comprenais pas en quoi se tirer dessus avec de la peinture contribue à créer un esprit d'équipe. Pour moi, le team building n'a de sens que si on construit quelque chose ensemble de concret ou symbolique. »
Complètement d'accord. Je crois que la nature de l'activité, le fait de vivre une expérience ensemble, transposable, hein, transposable, parce que dans le paintball, il faudrait y voir simplement la dimension carnassienne de type vraiment destructrice. C'est une conception de la compétition d'ailleurs extrêmement dommageable, puisque que je sache, dans l'univers commercial, on tue pas le client, que je sache. Hein. Au contraire, on cherche à le satisfaire. Donc je vois pas trop le lien avec le paintball. Alors le paintball, c'est vrai, était dans le collimateur. Comme le saut à l'élastique aussi à un moment donné, où cette dimension vertigineuse là de mettre quelqu'un en danger et de vérifier son rapport à la mort, quoi, clairement, parce qu'il y a quand même un risque, hein, de se dire que vraiment on va pouvoir transposer ça dans la vie de l'entreprise. Il faut que ce soit transposable, il faut vivre une expérience entre faire de la cuisine, entre faire du théâtre, entre chanter par exemple la chorale, ça a un certain succès, ça marche bien, et il y a des gens qui en ont tiré des profits, il y a des gens qui le disent après, ils se sont découverts sous un autre angle. Dans une autre dimension.
Marc Bauger. Là où on pourrait trouver des mérites au team building, c'est si, dans le cadre de ces activités, les rangs hiérarchiques tombaient. finalement, si le chef n'était plus forcément le chef, si le cadre créait un nouveau rapport de force. Et quand on va sur le terrain, quand on raconte là, les expériences qu'on a racontées, finalement, c'est assez peu le cas.
C'est vrai.
La hiérarchie n'est pas gommée. Et finalement,
c'est vrai.
Du coup, à quoi
et,
ça sert
et même si elle était gommée, attention, hein, pire que ça, même si elle était gommée, moi j'ai eu des échos qui me sont revenus là-dessus, on se tutoie dans ce fameux team building, et le lundi, le patron, il reprend le vouvoiement avec ses équipes.
Pour peu que le subalterne ait mis en position de difficulté le chef sur un jeu ou un autre, on peut même imaginer des sanctions symboliques.
Marc Bauger, vous êtes vous-même chef, est-ce que par exemple, si vous organisiez, je sais pas, une partie de foot pour souder les équipes à Society, à SoFilm, ou à SoFoot,
on nous laisserait gagner.
Et que l'un de vos journalistes vous taclait violemment, mais est-ce que vous lui en tiendriez rigueur?
Il serait renvoyé sur le champ, c'est déjà produit, et on est au prud'homme là.
Bonjour Franck des Côtes d'Armor, bienvenue dans Grand Bien vous fasse.
Merci.
Alors, vous possédez une société, c'est ça?
Oui, c'est ça, je possède une société qui s'appelle Pro 4 Talents, et qui propose...
Merci pour la pub.
Non seulement du team building, mais d'aller au-delà. C'est-à-dire que tout le débat qu'on a depuis 50 minutes pose la question de à quoi ça sert, avec le risque de mettre des gens devant un danger, devant un j'aime pas, devant un je vois pas pourquoi je suis là, etc. Donc l'idée, par le passé musical que j'ai et par le passé managérial que j'ai, puisque j'ai suivi un IMBA à HEC pour pas la nommer, l'idée est que je voulais un thème qui puisse être totalement universel et avec aucun danger, et donc j'ai rejoint la musique à travers ça, et l'idée est que les gens du coup n'ont peur de rien, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans une salle, le manager n'est pas plus au courant que ses collaborateurs de ce qui va se produire, et on leur annonce à 9h du matin, on est lundi, que demain soir, mardi à 18h, ils auront écrit, composé, enregistré et mixé un titre musical original. Alors, on a un état de sidération primaire, mais l'idée est de dire le team building pour le team building ne sert pas à grand-chose à long terme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que pendant ces deux jours, je vais non seulement aider l'équipe avec un technicien spécialisé à produire ce titre musical, et à chaque fois l'expérience est réussie, il n'y a aucun danger d'échec, mais que je vais observer le manager. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est que fait le manager avec son équipe. Vous l'avez dit dans votre titre, si c'est du management, c'est du building, alors il faut regarder le manager. Et que fait le manager avec son équipe pendant ces deux jours? Est-ce qu'il les protège? Est-ce qu'il les unit? Est-ce qu'il les fait participer? Est-ce qu'il recherche le consensus? Est-ce qu'il est directif? Est-ce qu'il est collaboratif? Est-ce qu'il met tout le monde dans la boucle? Comment il anime tout ce groupe pour arriver à cet objectif qui lui paraît un Everest en maillot de bain au départ? Et en fait, l'idée est que le team building soit d'abord universel et sans danger pour les collaborateurs. C'est une chose que vous avez nommée plusieurs fois, la personne qui a peur au milieu de l'acrobranche ou la personne qui n'aime pas le rugby ou le football. J'ai encore trouvé personne qui me dit je hais la musique. Par contre, il y a un débat extrêmement intéressant que doit mener le manager, c'est quelle musique on fait par rapport à son équipe.
Merci beaucoup Franck de nous rappeler des Côtes d'Armor. Lionel Bélanger.
Oui, je partage cette conception du team building dans la dimension managériale, c'est-à-dire vivre une expérience ensemble, qu'il y ait des superviseurs compétents, observateurs, qui effectivement analysent les liens qui s'établissent au sein du groupe et avec leur manager, et fassent un retour, un debriefing. Je crois que les vraies opérations de team building ont de la valeur par le debriefing qui est fait, c'est-à-dire les enseignements qui sont tirés, qui parfois confirment des réalités, un manager trop autoritaire, trop directif, quelqu'un qui ne soutient pas, quelqu'un qui, au contraire, est plutôt au milieu de ses équipes plutôt qu'au-dessus ou à côté. Donc ça a du sens. Quand il y a du debriefing, ça a du sens.
Ça vous tente, Julia Foyce?
Alors, je vois bien que vous essayez.
Vous êtes un peu notre cobaye ce matin.
J'entends bien. Alors, de vous à moi, je n'irai pas non plus dans une chorale. Mais c'est parce que je suis totalement... Ça, c'est parce que je suis beaucoup trop associable. Mais non, la vraie différence pour moi
Elle
entre...
Elle n'aime pas ses collègues, je crois.
Je les hais. Mais non, mais pas du tout. Mais c'est juste que j'ai pas envie qu'on m'impose de passer un week-end avec eux. Je préfère choisir de passer un week-end
Julia
avec Foyce,
eux. Julia Foyce, vous allez passer à la compta tout à l'heure.
Eh ben très bien, je passe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le théâtre et la musique, là où c'est un petit peu différent, c'est qu'au moins on enlève cette dimension violente et ce jeu un petit peu pervers avec le danger qui moi que je trouve assez nauséabond. Et puis Lionel Bélanger tout à l'heure parlait de liberté. Moi, si j'ai la liberté de choisir si je vais ou pas dans cette chorale, à ce moment-là, il y a peut-être même des chances que j'aille y pousser la petite chansonnette.
Franck, petite conclusion.
Juste un point, on est très loin de la chorale, hein. C'est-à-dire que.
Je donne un exemple parce que ça a été cité aussi. C'est pour ça.
Quelqu'un doit aller faire de la guitare, l'autre de la boîte à rythme, l'autre de la basse, etc., etc. On doit tout faire. Mais juste un point, c'est qu'on n'est pas non plus sur un week-end. Hein. On est pendant du temps de travail puisque c'est du travail.
C'est quand même une nuance importante. C'est vrai. Quand c'est en dehors du temps de travail, en plus.
Oui, bien sûr.
Bah, même pas en rêve. Hein.
Merci beaucoup, Franck, de nous avoir appelé des Côtes d'Armor. Allez, il est temps de retrouver la Scheherazade du numérique. Jules Lafoyce, il était une fois dans le web.
Once upon a time.
Il était une fois.
Les engrenages continuent de tourner, ça ne s'arrête jamais.
In the web.
Dans le web.
Alors, comme chaque année, Twitter vient de publier son bilan. Quels sont les événements, les actualités, les personnalités qui ont fait 2016 sur le réseau social qui gazouille ? Réponse avec Julia Foyce.
C'est l'histoire d'un mois de janvier, mois qu'on préférerait oublier, premier d'une longue série de mois avariés. À lui d'ouvrir le bal, ils sont 12 au total pour une longue année qui ferait mieux de s'en aller. Janvier de cette année, pour être précis, le 10, c'était Rest in Peace, Bowie repose en paix, Ziggy. David Bowie fauché, Twitter a saturé du hashtag RIP. Oh oui, Bowie, on va beaucoup te pleurer. Ah non, pas le temps, désolé. Car voici débouler un autre Rest in Peace, cette fois c'est le Kid de Minneapolis. Prince aussi a décampé, c'était pourtant le printemps, mais que vous dire, décidément, 2016, ça fait mal au plus grand. Un à un, les mois passent, un à un, ils trépassent, l'année est mortifère. En 140 caractères, sur la planète entière, on partage son chagrin, on se dit orphelin de ceux qui, petits, nous ont bercé, totem d'adolescence évanoui, en fumée, vestige d'un autre siècle, déjà bien enterré. Dernier témoin d'un monde sur le point de sombrer, peut-être un peu de nostalgie, un peu de mélancolie, de la tristesse sourde aussi. L'oiseau Twitter ne pépille plus, il est perdu, largué, paumé, encore plus déplumé au mois de novembre cette année. R.I.P. Leonard Cohen. RIP, mais avant lui, il y a eu Papa Wemba, et puis Ettore Scola, et puis Andrzej Wajda, avant, pendant, après, Mohamed Ali, André Julawski, Abbas Kiarostami, c'est sûr, j'en oublie. La liste s'est allongée tout au long de l'année, plus de 18 000 fois, on a dû modifier la page Wikipédia qui remonte les morts de tout le calendrier. Alors vous savez quoi ? 2016, va te faire RIP. C'est pas de moi, j'aurais aimé, mais c'est Madonna qui a tweeté « Fuck you, 2016, colère épidermique au énième mort de la musique annoncée, George Michael, RIP le soir de Noël, il est décédé. Climax de l'année, non, il se l'est fait. » Volé au poteau, coiffé par Carrie Fisher, terrassé elle aussi par cette sale année. Princesse Leia, que la force soit avec toi. Depuis hier, Twitter te salue bien bas. Twitter qui a connu, ouf, on n'y croyait plus, quelques vivas, quelques holas cette année. Les JO de Rio, événement le plus tweeté, 187 millions de tweets échangés. Michael Phelps, Teddy Riner, Usain Bolt, rois incontestés. C'est des records, ça revigore, on admire l'effort, on en veut encore. L'âme de Coubertin réjouit, l'esprit chafouin, le sport c'est sain, la compète ça fait du bien. Enfin, quand on la gagne haut la main, que dire des Français ce soir du 10 juillet, battus, déconfits, stupéfaits. Oui, c'est le Portugal qui l'emporte, cette finale de l'Euro. 1-0, score inattendu sur Twitter, on a la berlue, alors on tweet et on retweet et on retweet plus vite. Résultat, le voilà, le topic de l'année chez nous, côté Français, l'Euro de football, sujet premier des tweetos déchaînés. Issue incongrue, pas vu venir non plus, Donald Trump, grand vainqueur, et Twitter tremble de peur. Trump, tireur d'élite, voyez comme il tweet, il insulte, il vomit, il tire à vue ici. Il le sait, il faut faire du bruit. Politique étrangère, 140 caractères, programme économique, hop, une formule magique, mais ça marche, c'est clair, 13 millions de followers, une armée d'abonnés, Donald Trump s'est compté, ça y est, oui, il est personnalité de l'année. Pas en France, non, c'est celui qui déjà, en termes d'audimat, a mis tout le monde, échec et mat, Cyril Hanouna, phénomène médiatique, animateur boulimique, tweetos endémique, 5320 tweets sur une petite année, on dit vulgarité, il tacle, notoriété, et paf, 4,2 millions d'abonnés. Trump, Hanouna, sacré, si ce n'est maître à penser, du moins maître à tweeter, c'est qu'ils font oublier le pire de cette année, la peine maximum, le choc comme un seul homme. Les tweetos ont tweeté en mars, en juin, en juillet. Bruxelles, Orlando, Nice, promenade des Anglais, on y était ou pas, mais via Twitter, on y va. Solidarité, fraternité, message de paix ou de proches inquiets, on ne veut pas oublier, non, mais arrive Noël, Berlin et son marché, à nouveau l'horreur, à nouveau la stupeur, et toujours sur Twitter, déferlante d'humeur, parmi elles, celle-ci, une anonyme qui écrit « Je suis Charlie, Bataclan, Bruxelles, Orlando, Alep, Nice, Berlin, je suis épuisée, mais on se relèvera. Alors 2016, salut à toi. »
Il était une fois dans le web, Julia Foyce, tous les mercredis. Vous êtes remise de la mort de George Michael ?
Pas du tout. Last Christmas.
Allez-y, chantez.
Mais ça, pas, non?
Moi, je me suis pas remis de la mort de Claude Jansac, je suis désolé.
Bah, il y aura débat. Il y aura débat. Qu'est-ce qui est pire, Claude Jansac ou George Michael?
Non, non, mais ne riez pas avec Claude Jansac.
Pardon, c'est une madeleine, je riais pas. C'est ma bouche qui a fait un bruit, mais je riais pas.
Vous restez avec nous, évidemment. Du Lafoyce, nous attendons vos questions et témoignages sur ces stages d'entreprise censés souder les équipes. 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com et sur notre page Facebook. Brio interpréter Monet.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Trois minutes avant le plus grand combat de nos vies professionnelles. Et tout se résume à aujourd'hui. Aujourd'hui, soit nous guérissons en tant qu'équipe, soit on s'effondre. Jeu après jeu, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'on soit fini. Dans cette équipe, on se bat pour ce centimètre. Dans cette équipe, on se sort les tripes et on les sort à ceux qui sont autour de nous pour ce centimètre. Parce qu'on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres, c'est ça qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre. Entre vivre et mourir. Ça, c'est une équipe, messieurs. et soit nous guérissons, aujourd'hui, en tant qu'équipe, soit nous mourrons tous en tant qu'individus. C'est ça le football, les mecs. Mais ça n'est que ça. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ?
La célèbre causerie d'avant-match dans l'enfer du dimanche d'Oliver Stone. Ce matin, on s'intéresse dans Grand Bien Vous Fasse au team building, ces techniques censées souder les équipes en entreprise avec Lionel Bélanger qui publie Comment manager demain et puis Marc Boger, rédacteur en chef du magazine Society qui propose un reportage sur ces techniques de management dans le hors-série Une année en France, actuellement au kiosque. Alors Lionel Bélanger, pour se ressouder, souder les équipes en entreprise, le sport reste très prisé.
Oui, à cause de la dimension compétition qui concerne l'entreprise. C'est clair que la dimension concurrentielle, l'univers dans lequel nous sommes aujourd'hui, postule encore une dimension fortement compétitive. Et pourtant, ce type de message du leader, en quelque sorte, qui motive ses troupes avec une argumentation très contraignante de type vie ou mort, quoi, où on gagne, où on perd.
Comme dans
cet
extrait de l'enfer du dimanche.
Tout à fait. Semble aujourd'hui très daté dans le sens où l'évolution du management aujourd'hui amène le management moins vers du leadership d'autorité et de persuasion, mais plus vers quelqu'un qui crée des conditions favorables, qui cherche à bonifier, qui apporte du lien, qui surtout apporte de la confiance et met les gens dans les meilleures conditions qui soient, par une approche beaucoup plus coopérative que compétitive. Donc il y a une vraie évolution du management. Et de façon intéressante, le team building, si jamais il a encore sa place, vraisemblablement aussi évoluera dans ce sens-là. Et ce que l'on a dit tout à l'heure, par exemple, des expériences d'enrichissement avec une dimension culturelle, où on partage des expériences ensemble, que ce soit pour chanter, pour cuisiner ou faire autre chose, ou pour travailler sur des aspects artistiques, par exemple, assister à un film et puis ensemble en discuter après, en tirer des enseignements, quel sens ça et qu'est-ce que je peux en faire. C'est plus dans l'esprit du management d'aujourd'hui.
Julia Foyce, qui a envie de réagir.
Gâchez-moi aussi ma séance de cinéma, quoi, je veux dire. Alors, le cinéma, d'accord, mais avec les collègues. Bon, ok, d'accord. Alors, à la limite, il y en a des sympas. Très bien, j'y vais. Et derrière, quoi, il faut que je fasse des fiches sur ce que j'ai pensé du film et que je remplisse des petites cases sur, et qu'ensuite il y a un débat. Non, mais c'est pas possible. J'ai l'impression de me retrouver à la salle Jacques Tati à la MJC d'Orsay, quand j'étais petite.
Lionel Bélanger, le sport, Marc Boger l'évoquait tout à l'heure, le sport en entreprise permet de brasser les fonctions en cassant les barrières hiérarchiques, mais c'est un peu illusoire.
Oui, d'autant plus que l'analogie entre le sport et l'entreprise, d'ailleurs, est quand même à une certaine distance. Hein. Il y a des dimensions, il y a des gens qui l'ont dit parfois, j'ai vu ça dans des entreprises, on fait venir un grand coach sportif pour parler de ses expériences managériales, etc. Et il y a des gens quand même qui disent, oui, mais enfin, attendez, chez nous, vous connaissez les salaires par rapport à ceux qui sont donnés dans l'univers du sport. Il n'y a pas de comparaison possible. Et on n'est pas dans la même problématique. Par exemple, le rugby a souvent été utilisé pour des raisons de valeur, des valeurs de solidarité, des valeurs de partage, des valeurs d'investissement personnel. Et souvent, les dirigeants qui ont fait intervenir des coachs, qui ont permis à leurs salariés éventuellement de faire des expériences sur le terrain, de jouer, cherchaient en fait, encore une fois, lors du debriefing, à mettre en évidence des valeurs avec lesquelles on est d'accord ou pas, des valeurs de combativité, des valeurs de solidarité, des valeurs humaines. La question qui se pose, c'est faut-il passer par là pour partager ces choses-là ?
Marc Boger.
La vraie question.
La question que ça pose, c'est est-ce que le travail en lui-même, le pur travail, ne peut pas être générateur de solidarité et d'harmonie ? C'est-à-dire que, alors, on n'a pas de leçons, nous, à donner à personne à Society, mais il y a des trucs tout cons, c'est-à-dire que physiquement, les chefs sont au milieu de l'open space, à la même table que tout le monde. Un détail. Quand on fait des réunions, tout le monde vient. C'est pas des petits comités, la porte est ouverte. On va boire des coups parfois, mais bon, ça, c'est dans toutes les boîtes, ça arrive. Comment on peut faire pour, sans artifice, faire en sorte que les gens dans un cadre de travail. Nous, les salaires, par exemple, il n'y a pas de fois 50 le patron et fois 1 le salarié en bas. Il y a sans doute comme ça des moyens de faire que dans une entreprise, il y ait une forme d'harmonie naturelle et pas artificielle autour d'une partie d'accrobranche.
Et pour aller dans votre sens, Isabelle nous dit, le meilleur team building n'est-il pas simplement de dire bonjour, de valoriser, d'encourager au quotidien les salariés ? Lionel Bélanger.
Oui, tout à fait. Je crois que l'époque d'aujourd'hui montre bien la soif de reconnaissance, le besoin de resécuriser des gens qui sont dans un univers de forte incertitude, et que ça, c'est au quotidien que ça se travaille. Je pense que, encore une fois, le team building, pour moi, c'est comme un médicament. On peut s'en prendre aux médicaments, mais on peut aussi dire que les médicaments sauvent. Il y a des effets indésirables, il y a des effets pervers. J'ai mal à la tête, je prends un médicament, je sais qu'il y a des effets indésirables. On va 2 ou 3 jours dans une opération de team building, on va partager un certain nombre de choses ensemble. Il peut se produire des incidents, hein, il y a des dents cassées dans le rafting ou des poignets tordus. Bon, le soir, c'est la soupe à la grimace. D'ailleurs, en matière cohésive, c'est un peu raté dans ce cas-là. Mais on a vécu quelque chose ensemble. Le team building peut faire une analogie avec ce que la psychologie sociale a montré, à savoir que les gens, quand ils vivent ensemble, des épreuves et des événements fondateurs. Par exemple, des amis partent ensemble et puis ils vont faire un petit tour en mer, il y a un orage terrible qui se déclenche, ils vivent 3 heures épouvantables, ça va être la référence de leur vie, ils vont en parler ensemble, ça va souder des liens ça. Ça va souder des liens entre eux.
Julia Foyce.
Oui, mais cet événement, il est naturel, il n'est pas créé de façon artificielle. Parce que dans ce cas, si on doit créer une expérience extrême comme celle-là, je continue de trouver ça très pervers, quoi. Je trouve que c'est une façon de jouer avec les salariés.
Et puis la production de quelque chose peut rapprocher les gens dans une entreprise qu'il y a des objectifs, on peut juste s'associer dans le travail, atteindre un objectif de boulot et y trouver une matière à se rapprocher. Enfin, oui. Vraiment dans le cadre de son activité, quoi.
Oui. Je vous entends, mais quand même, que ce soit...
mais quand même, un peu d'accrobranche.
Que ce soit dans l'éducation nationale avec des enfants, avec des élèves, avec des étudiants, on ne peut pas reprocher à des enseignants de chercher à créer des situations dans lesquelles il y a une expérience qui va être vécue et dans lesquelles on peut penser qu'il y a un apprentissage qui peut en tirer.
Alors, ces stages, ces séminaires, pour souder les équipes, permettent bien sûr de se connaître de manière plus personnelle, mais ça peut se retourner parfois contre vous, quand vous partagez des émotions, des confidences pendant ces moments-là.
C'est ce que j'appelle les effets indésirables. Il y a du risque, mais il y a du risque. S'exposer, il y a du risque, forcément. Mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un de vivre une expérience. Il n'y a qu'à regarder du côté des scientifiques. Hein. Philippe Gilles d'Eugène disait « progresser, c'est changer d'erreur ». Donc il est clair que quand on fait des expériences, on court des risques, forcément. Et il y a des risques, il y a un problème de balance, bénéfice, effet indésirable. Des choses de très mauvais goût. Très, très mauvais goût, ça j'en suis certain.
Mais si dans un excès
vous en avez mis dans votre article, là, de façon intéressante, bon, d'ailleurs c'est plutôt à charge, hein, parce que c'est plutôt de mauvais goût en général... Mais on pourrait interroger des gens aussi qui disent du bien. Il y en a qui en disent du bien.
Mais Lionel Bélanger, si dans un accès de sincérité, j'explique à mon camarade d'Acrobranche que sa stratégie d'entreprise est complètement nulle, je risque d'en payer le prix.
C'est clair.
Hein ?
C'est clair.
Bonjour Olivier de Paris.
Oui, bonjour. Je vous appelle pour illustrer finalement complètement, je pense, les propos qui viennent d'être tenus par vos invités et qui, quelque part, me rassurent. Parce que, voilà, j'ai entendu parler d'artifices ou de médicaments sur le team building et je vois ça absolument comme cela. Alors moi, ce que j'ai vécu dans l'entreprise, dans une boîte par laquelle je suis passé, c'est que finalement, les managers, les deux femmes managers d'une équipe de 10 personnes étaient là pour introduire de l'humain au quotidien. Il y avait le souci de l'individu, de l'équipe comme de l'individu, et le travail se faisait dans un esprit collaboratif, d'entraide, pour résoudre finalement des problèmes ensemble et pour s'aider à les résoudre. Et je trouve que depuis quelques dizaines d'années, dans l'entreprise, alors là on va parler de la France, mais je pense que c'est quelque chose qui s'est généralisé avec la mondialisation, on a introduit exclusivement de la compétition dans l'univers du travail. On a introduit des espaces de travail très douteux, basés sur le panoptique, comme ces immenses open space où finalement tout le monde surveille tout le monde. Et voilà, je fais écho avec vos invités, c'est-à-dire que maintenant on cherche des médicaments pour guérir une sorte de cancer qui a été introduit à des très hauts niveaux de la hiérarchie de l'entreprise pour finalement contraindre, surveiller et amplifier le rendement et la rentabilité des gens. Mais on a exclu l'humain. Et là, je suis heureusement rassuré ces dernières années en voyant que on commence à reparler de l'introduction de l'humain, de la camaraderie et de la coopération au sein de l'entreprise entre les salariés. Et donc moi, ces managers nous proposer une fois et demi, tous les mois et demi, des sorties très simples aussi, par exemple un restaurant, des choses un peu exceptionnelles, par exemple manger dans le restaurant de la Tour Eiffel. Et là, on partageait autour d'une table, on discutait, c'était très ouvert. On n'était pas obligé d'y aller, c'était ouvert. Et merci. Je pense qu'il faut un esprit d'ouverture aujourd'hui.
Merci beaucoup, Olivier. Réponse rapide de Lionel Bélanger.
Oui, je crois que notre interlocuteur l'a illustré, la dimension festive qu'il peut y avoir effectivement dans le team building, mais qu'on peut retrouver tout simplement dans la sortie d'après-travail. Sortie d'après-travail qui permet aussi d'échanger, on peut l'espérer, sur autre chose que le travail, et de se découvrir, de partager un certain nombre d'éléments plutôt émotionnels.
Un mail d'auditeur qui nous dit, Julia a raison, le recours à ces techniques de team building ne fait que confirmer l'échec des autres techniques de management. J'ai longtemps travaillé dans des cabinets d'audit anglo-saxons et ces moments de team building étaient pour moi une pure mascarade. Voilà. Vous pouvez continuer à réagir au 01 45 24 7000 et par mail, grand bien vous fasse à radiofrance.com. Temptations, my girl.
Ali Ribi, grand bien vous fasse.
sur France Inter.
Et on s'intéresse encore quelques instants à 10h54 au team building qui suscite beaucoup de réactions par mail. Ces techniques censées souder les équipes en entreprise avec Lionel Bélanger qui publie Comment manager demain et Marc Bauger, rédacteur en chef du magazine Society qui propose un reportage sur ces techniques de management dans un hors-série qui vient de... Voilà, je pataquais, hein, Julien.
Non, on est bien.
Dans un hors-série, une année en France, actuellement en kiosque. Lionel Bélanger, à quoi peuvent bien servir ces stages, ces séminaires de team building pour souder les équipes quand le style de management n'est pas vertueux?
Je crois que, en particulier, je parlais de palliatif tout à l'heure, il apparaît surtout lorsque le manager perd la main et espère, par le team building, obtenir quelque chose. On pourrait presque dire, à l'envers d'ailleurs, que le team building, bien choisi avec des jeux pas débiles, etc., peut parfaitement convenir à une équipe qui est saine, justement, dans laquelle ça marche bien, pour apporter une dimension festive, une dimension expérientielle supplémentaire. Mais en aucun cas, ça peut soigner une équipe qui va mal, dans lequel les relations sont mauvaises, dans lequel le manager est grillé, il ne faut pas avoir peur de le dire, parfois est complètement grillé parce qu'il manque de consistance, parce qu'il n'est pas proche des gens, etc. Les mettre en team building, mais c'est
mortel. Et parce qu'il n'adopte pas ce manager un comportement juste et vertueux.
Bien sûr, c'est comme si un patient avait accès à des médicaments dangereux. Exactement pareil.
Marc Bauger.
On constate que y a un problème de turnover dans les entreprises. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus d'entreprises dans une carrière qu'on le faisait avant. Il y a des contrats courts, de la précarité. Du coup, finalement, il n'y a plus le temps de créer un vrai esprit de corps naturellement. Et comme ça, on essaye d'accélérer la fabrication de l'insocial social par ces palliatifs artificiels. Et finalement, c'est assez peu opérant.
Moi, ce que je crois, c'est vraiment le retour du contact. J'ai vu, par exemple, dans des pôles de compétitivité, des entreprises qui sont très proches et partenaires les unes des autres, dans lesquelles on organise un repas à l'extérieur, parce qu'il y a des gens qui sont à 100 mètres ou 200 mètres et qui ne se connaissent pas. L'entreprise est en face de chez eux, ils se croisent sur le parking et c'est tout. Donc, je pense qu'il y a un retour et une nécessité, là, de la dimension humaine, du contact, effectivement.
Bonjour Frédéric Seyrist.
Bonjour Ali.
En ligne depuis votre lieu de villégiature, vous êtes humoriste dans la bande originale de Nagui et vous êtes sur scène à partir de ce soir au Funambule Montmartre. Manuel de survie dans l'isoloir, c'est le nom de votre spectacle. Et vous êtes un grand fan de Star Wars et c'est l'occasion de rendre petit hommage, c'est un clin d'œil à Carrie Fisher disparue hier. Carrie Fisher, eh bien, c'est bien sûr Princesse Leia. Frédéric Seyrist, est-ce que les chevaliers de l'ordre Jedi et la Princesse Leia auraient été de bons managers pour souder une équipe?
En fait, comme vous l'avez déjà dit, Ali, les chevaliers de Jedi sont un ordre de chevaliers avec une idéologie religieuse qui les fait croire en la force. C'est une énergie mystérieuse censée manipuler toute chose. Et c'est une philosophie dont on s'est abreuvé au fil des années, notamment par les célèbres maximes de Maître Yoda, fais ou ne fais pas, il n'y a pas d'essai. Ce qui ne signifie pas qu'il faut réussir tout le temps, mais que toute tentative peut être faite avec la réussite comme objectif. Et étonnamment, les meilleurs exemples de management dans Star Wars, on les trouve ni chez les Jedi, qui ont disparu par un trop grand conservatisme et aussi une trop grande rigidité, ni chez leur adversaire l'Empire, qui s'apparente à un régime totalitaire, où les ordres n'obéissent qu'à un schéma vertical de l'empereur vers les exécutants. Il n'y a pas d'initiative personnelle chez l'Empire. Le meilleur travail d'équipe, on le retrouve chez les rebelles, dirigés par la princesse Leia, qui réussit à faire travailler des gens issus de milieux totalement différents et aux personnalités totalement opposées. Han Solo, le contrebandier, la princesse Leia, qui elle est issue de la monarchie, Luke Skywalker, le paysan avide d'aventure, j'en passe et des meilleurs, Chewbacca, C-3PO, autant de profils très différents qui pourtant travaillent à un but commun, faire tomber l'Empire. La rébellion nous montre que loin de nous opposer, nos différences s'additionnent et créent un tout bien supérieur à la somme des parties qui la composent.
Merci beaucoup Frédéric Seyrist pour ce clin d'œil à Carrie Fisher alias Princesse Leia disparue hier. Et d'ailleurs Marc Bauger, dans leur série de Society, il y a une image de Xavier Niel qui manie le sabre des Jedi au milieu de son école, l'école qu'il a créée, l'école 42. Hein. C'est ouais, à lire ce portrait de Xavier Niel. Merci beaucoup d'être venu Lionel Bélanger. Je recommande Comment manager demain. Merci Marc Bauger. Le copieux hors-série de Society, une année en France, est actuellement en kiosque. À la technique ce matin, Loïc Frapsos et Vincent Godard.